Votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Y a-t-il trop de viande dans les cantines scolaires? Les associations réclament plus de menus végétariens. On en parle, Pierre, dès le début de ce journal.
Connaissez-vous le soft discount? C'est pour un grand groupe la possibilité d'offrir des produits d'entrée de gamme avec un label propre, avec un vrai label. Carrefour ouvre son premier Supéco à Valenciennes. Nous y sommes dans quelques minutes.
Ce n'est pas en fermant 900 trésoreries que l'on va réimplanter du contact humain. Il ne faut jamais oublier la population qui est exclue de la dématérialisation des services administratifs.
L'État, par l'intermédiaire de Gérald Darmanin, montre l'exemple dans le dégraissage de la fonction publique en supprimant 5800 postes à Bercy. Vous venez de l'entendre, les syndicats sont vent debout. Le gouvernement en séminaire de rentrée, oui, mais pour quoi faire? Le Brexit, épisode 5712, on n'y comprend plus rien, mais Pierre Herbulot à Londres nous expliquera. Et puis
j'ai l'impression que quand tu joues pas à Nadal, quand tu joues pas à Djoko ou quand tu joues pas Roger en quart, on a toute l'impression, ouais, voilà, c'est ouvert.
Gaël, mon fils, c'est open, c'est ouvert en quart de finale de l'US Open, forcément plus confiant face à l'Italien Berrettini que face à une grosse pointure, mais évidemment tout est relatif. La tendance météo, Céline Dacosta, un peu de pluie aujourd'hui.
Oui, de faibles averses hein, qu'on retrouve en ce moment sur la Bretagne, les Pays de la Loire et le Cotentin, des averses qui vont doucement rentrer dans les terres d'ouest en est. Pour tous les autres, c'est du soleil et des températures toujours agréables, hein, la moyenne va de 25 à 30 degrés.
Europe 1. C'est donc le cri d'alarme des associations de parents d'élèves, mais pas que. Il y aurait, Pierre, trop de viande dans les cantines scolaires.
Trois associations, en effet, lancent un appel pour qu'on mange plus de légumes que de steaks. La FCPE, avec le concours de Greenpeace, et de l'AVF, l'Association végétarienne de France, lance cet appel. Virginie Selmen, vous êtes en direct de cet appel rendu public. On veut des repas alternatifs dans les selfs, mais pour quelle raison ?
Eh bien d'abord parce que les enfants surconsomment de la viande. Ils en mangent entre 2 et 4 fois trop dans les cantines par rapport aux recommandations officielles de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Donc d'abord, il s'agit de la santé des élèves. Et puis de la planète, parce que les scientifiques du GIEC, vous le savez, recommandent instamment de diminuer au maximum notre consommation de protéines animales. Et puis, il y a une loi, vous le savez peut-être, qui va entrer en vigueur le 1er novembre, la loi Egalim. Et à partir de cette date, toutes les cantines de France devront proposer au moins un repas végétarien par semaine. Toutes les cantines de France. Donc, il est temps de s'adapter. Et puis, de plus en plus, vous savez, de collégiens, de lycéens, vous le voyez peut-être dans votre entourage avec vos enfants, vos neveux et nièces, ont changé leurs habitudes alimentaires. Ils ne trouvent pas toujours le repas qui leur correspond à la cantine. Alors la difficulté, c'est avec les grands groupes de restauration collective, en tant que parents d'élèves, de faire changer les menus. Greenpeace lance aujourd'hui un site internet, cantineverte.fr, pour que les parents puissent se regrouper et mettre la pression sur les maires des communes et ainsi obtenir une cantine de meilleure qualité.
Merci Virginie Selmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Alors justement, écoutons les parents d'élèves. Jean-Gabriel Bourgeois leur a demandé s'ils souhaitaient ou non évoluer vers des menus végétariens.
Effectivement, il y en a souvent, mais pour moi, le menu reste équilibré et ce n'est pas une priorité sur les menus de la cantine. C'est bien pour le changement des habitudes et de toute façon, je pense qu'à l'avenir, il faudra en consommer moins et c'est très bien de l'apprendre aux enfants.
Il y a certainement trop de viande en général. Je ne crois pas qu'il faille imposer de nouvelles choses aux cantines qui font déjà ce qu'elles peuvent. Je crois que la qualité s'est grandement améliorée ces dernières années dans les choix, dans les produits. Et après, je ne pense pas qu'on force qui que ce soit à manger de la viande.
Vaut mieux être un bon steak de soja qu'une mauvaise viande qui vient des quartiers où les gens n'ont pas tellement d'argent pour acheter des protéines animales. Donc je pense que quand ils sont à la cantine, justement, ils peuvent avoir cet apport de protéines animales qui est nécessaire à la croissance d'un enfant.
Voilà les avis des parents devant l'école parisienne Saint-Charles dans le 15e arrondissement avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Vous êtes sur Europe 1, il est midi 4, la suite du journal Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
On va continuer de parler consommation cette fois-ci au sens large puisque Carrefour ouvre son premier magasin soft discount en France. Il s'appelle Supéco, il se trouve à Valenciennes. Où vous êtes, Lionel Gougelot? Les tout premiers consommateurs ont pu goûter au soft discount. Est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? D'ailleurs, éclairez-nous.
Oui, alors vous savez, Pierre, ce concept de soft discount, c'est surtout sur le ticket de caisse que les clients l'ont découvert ce matin.
Les légumes sont moins chers qu'ailleurs.
Vraiment?
Ah oui, bah, là, le chou-fleur, il est à 99, à Lidl, il était à 2,50 ou 2,90 au chou-fleur. Oui, vu les budgets qu'on a maintenant, c'est très intelligent, c'est bien.
Mais vous êtes sûr de la qualité?
Ah oui, bah, toujours les produits Carrefour, j'ai toujours pris Carrefour, donc j'aime bien.
Alors des produits de marque Carrefour, quelques autres grandes marques en complément, mais pour tirer les prix vers le bas, il faut limiter le nombre de références dans les rayons, pas plus de 2000 produits, un choix limité qui n'a pas l'air de déranger Michael.
Alors, généralement, on est toujours fixé sur les mêmes produits. Donc, je pense que sur la grande distribution, les gens n'aiment pas trop varier leurs produits. Donc, non, c'est pas plus mal. Je pense que c'est bien comme ça.
Alors, dans cette enseigne Supéco, il n'y a pas de superflu dans la présentation des alignements de produits, mais pas que. Pascal Clouzard, directeur exécutif du groupe Carrefour.
On a aussi voulu garder le côté traditionnel pour le frais. Donc, là, derrière moi, alors, il y a une boucherie traditionnelle, il y a une boulangerie traditionnelle, il y a un stand de fruits et légumes traditionnels, il y a du bio, parce que ça aussi, c'est une demande client aujourd'hui complètement incontournable. Moi, je prends le pari que les clients seront contents.
Ajoutez-y deux grands rayons de produits en vrac, économique et écolo. À première vue, les clients de ce quartier de Valenciennes semblent avoir adopté ce supermarché de proximité.
Merci Lionel Gougelot en ligne de Valenciennes pour Europe 1.
Bonjour Olivier Dauvert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes expert en grande consommation. Dites-moi, c'est un concept indispensable pour un groupe de grande distribution aujourd'hui que le soft discount ?
Ben oui, parce que ça répond tout simplement à une problématique d'une partie des consommateurs qui cherchent plus que jamais à faire des économies sur leurs produits alimentaires, notamment pour pouvoir accéder à d'autres biens de consommation qu'ils désirent peut-être davantage que l'alimentaire et sur lesquels ils vont monter en gamme et au détriment de l'alimentaire sur lequel ils veulent faire des économies. Et c'était bien ce qu'on ressentait ce matin à Valenciennes, j'y étais évidemment aussi, et on voit bien que les clients qui se précipitaient à l'ouverture étaient là d'abord pour le prix et pour la promesse de prix bas que l'enseigne tient depuis quelques jours dans ses publicités localement.
Et en même temps, on est très très loin, Olivier Dauvert, des tout premiers Leader Price. On a travaillé sur le packaging, le décor, les rayonnages. Tout ça est beaucoup plus appétissant.
Oui, parce qu'on est en train d'apprendre à quel niveau il faut placer le curseur. Je vais vous prendre un exemple précis. Vous pouvez toujours vendre des produits moins chers en dégradant leur qualité et leur cahier des charges. Quand vous faites des plats cuisinés, vous pouvez mettre du cartilage et non pas de la vraie viande. Bon, simplement, l'histoire nous montre, l'histoire du commerce et de la consommation depuis que le hard discount est arrivé il y a une trentaine d'années, c'est que quand vous baissez le niveau de qualité en dessous d'un seuil que le client juge acceptable, ça a beau être pas cher, il n'en achète pas. Et donc, en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une espèce de graduation, de positionnement du curseur entre le hard discount pur et dur, qui est parfois très punitif, et puis les magasins classiques qui sont venus, pour certains consommateurs en tous les cas, trop haut de gamme. Donc, ce que fait Carrefour avec Supéco, ou même ce que fait aujourd'hui Lidl en rénovant tous ses magasins, c'est un repositionnement du curseur à un niveau que le client peut accepter.
Olivier Dauvert, pardon, mais est-ce qu'on est simplement en train de ripolliner, c'est-à-dire de rendre plus joli un hard discount en l'appelant soft discount, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière une autre politique des prix qui est menée ?
Ah oui, quand je suis Carrefour et que je transforme un supermarché Carrefour Market, ce qui est le cas ici à Valenciennes, en Supéco, je modifie totalement ce qu'on appelle le modèle économique du magasin. Quand je divise l'assortiment, c'est-à-dire le nombre de produits par 10, je casse ma façon de travailler. Je vais mettre moins de produits en rayon, je vais être plus productif, je vais baisser mes coûts. Quand Lionel Gougelot vous l'a dit, quand vous avez des magasins où il y a des alignements de palette au sol, ben forcément, ça va plus vite aussi pour les employés. Donc, on réinvente une nouvelle façon d'exploiter un magasin qui coûte moins cher, parce que n'oubliez jamais que pour vendre moins cher, un magasin doit d'abord commencer par se coûter moins cher. Mais parce que sinon, ça s'appelle de la philanthropie et ça n'existe pas.
Au bout du compte, Olivier Dauvert, il n'y aura plus que les magasins haut de gamme, les magasins bio avec des produits rares et ce genre de magasin. Il n'y aura plus du tout d'enseignes intermédiaires.
Ben, d'une manière générale, dans la consommation, on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on appelle le moyen de gamme est en train plutôt de disparaître au profit d'une petite partie haut de gamme et d'une grande partie plutôt bas de gamme. C'est pas que sur l'alimentaire, c'est valable aussi pour beaucoup d'autres produits.
Merci beaucoup Olivier Dauvert d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec vos histoires de cartilage dans les plats cuisinés. Au secours.
Europe 1, il est midi 9, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et on prend tout de suite la direction de Cagnes-sur-Mer où le meurtrier présumé de Salomé a passé sa toute première nuit en prison.
Ouais, et il n'était autre que son compagnon, il a été mis en examen, écroué hier soir. Le corps de la jeune femme de 21 ans avait été retrouvé samedi dernier sous un tas de détritus dans une impasse. Frédéric Michel, le procureur de la République vient de donner des précisions.
Effectivement, et première précision de la procureure, le jeune homme de 26 ans placé en détention nie toujours les faits. Il reconnaît une vive discussion avec sa copine qui venait de le quitter, mais réfute catégoriquement lui avoir porté des coups. Pourtant, plusieurs témoins l'auraient vu s'acharner sur Salomé. À 1h49, dimanche matin, le premier appel à police secours est glaçant. Le témoin explique aux policiers, un jeune massacre une fille. Elle hurle à la mort. L'autopsie qui est en cours devrait permettre d'en savoir plus et de répondre à une autre interrogation. Y a-t-il eu défaillance des services de police? Des policiers pointés du doigt pour ne pas être, selon certains témoins, intervenus plus rapidement. Écoutez à ce sujet Fabienne Azzori, la procureure de Grasse.
Les policiers se rendent sur place, font des recherches. Alors, est-ce qu'ils avaient les éléments suffisants pour rechercher un corps? Première question. Est-ce que la jeune fille était encore vivante à ce moment-là? Deuxième question. Est-ce que si les policiers l'avaient trouvée, et c'est bien l'intérêt de l'autopsie, est-ce qu'on aurait pu la sauver? On ne peut pas ne pas s'interroger sur les éventuelles conséquences de l'inaction, si elle était avérée, de la part des voisins, ou des erreurs, là aussi, si elles étaient avérées, de la part des policiers intervenants.
Alors le jeune homme qui a passé sa première nuit en prison encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre par conjoint est l'un des crimes les plus graves dans notre code pénal.
Merci Frédéric Michel en direct de Nice pour Europe 1. À Strasbourg, le second suspect de l'incendie de Schiltigheim a avoué, incendie qui a fait un mort, rappelons-le, un enfant de 11 ans. Les autorités avaient dans un premier temps suspecté une connotation raciste. Apparemment, il n'en est rien.
Europe 1, il est midi 11.
Europe 1.
Restez avec nous. Dans un instant, le grand raout des ministres réunis en séminaire. C'est bien beau, mais ça sert à quoi? La réponse sur Europe 1.
Et il est midi 14, la suite de votre journal, Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
C'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour le gouvernement. Pierre, grand séminaire, il a commencé ce matin.
Avec une équipe élargie, vous le savez, Europe 1 était la première à vous le révéler hier. Jean-Baptiste Djebari au transport, Jean-Paul Delevoye rattaché à Muriel Pénicaud en tant que monsieur retraite. Bonjour Jean-Rémy Baudot. Vous êtes
bonjour Pierre,
à,
bonjour à tous.
L'Élysée où se tient ce grand séminaire. Alors, beaucoup de sujets, mais dont les retraites hein, justement.
Oui, les retraites, sujet épineux qui sera au cœur de la rentrée. Les retraites, c'est notamment la tâche du nouvel entrant du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, 72 ans. C'est lui qui avait remis un rapport sur le sujet en juillet. Il avait lancé l'idée d'un âge pivot qui ne semble plus être la préférence de l'Élysée. Delevoye qui propose aussi l'instauration d'un système universel par points, remplaçant les 42 régimes actuels. C'est donc tout ça qui est actuellement discuté en séminaire gouvernemental, alors que les partenaires sociaux seront reçus demain et vendredi à Matignon et qu'une concertation nationale est annoncée dans les prochains mois.
Jean-Rémy, parlons-nous franchement, ça les amuse les ministres d'aller en séminaire?
Alors Raphaël, disons que pour certains ministres ayant une longue expérience politique, cet exercice de team building macroniste atteint parfois ses limites. Nous sommes trop nombreux autour de la table pour que ce soit réellement efficace, constate un membre important du gouvernement pour qui les agendas en fait sont trop chargés pour se permettre ce temps de pause. En réalité, aujourd'hui, c'est le président Macron qui mène les débats, ce qui peut-être fera un séminaire un peu plus efficace dans la bouche de certains. En tout cas, l'impatience monte en cette rentrée qui s'étire un petit peu. On est tous déjà au travail, s'agace l'entourage d'un ministre issu de la droite. Avant de me lâcher hier, ça fait 4 fois qu'on inaugure l'acte 2.
Merci Jean-Rémy Baudot, ça veut dire quelque chose quand même. Jean-Rémy en direct de l'Élysée pour Europe 1. Alors, il y a un ministre qui a voulu donner l'exemple en matière de possibilité de dégraisser dans la fonction publique, c'est Gérald Darmanin.
Ah oui, puisqu'il a annoncé la suppression de 5800 agents des comptes publics à Bercy. Évidemment, pour les syndicats, la pilule passe mal, comme en témoigne d'ailleurs Philippe Grasset, c'est le secrétaire général de FO Finances Publiques.
C'est une énième réforme qui va se dérouler à Bercy, qui va se concrétiser par de nouvelles suppressions d'emplois à Bercy. Après les 20 000 que nous avons subis depuis 2010, il nous annonce 20 000 de plus d'ici la fin du quinquennat, qui est pour nous totalement inadmissible. Les queues au guichet des services de la DGFiP n'ont jamais été aussi longues, ce qui démontre bien l'importance pour les usagers d'avoir un contact direct avec les agents du fisc, qui sont en capacité de répondre à toutes leurs interrogations via la complexité du système fiscal aujourd'hui. Et le prélèvement à la source n'a rien changé en la matière, il n'a juste changé la méthodologie. Ce n'est pas en fermant 900 trésoreries comme il est prévu dans le projet de M. Darmanin que l'on va réimplanter du contact humain. Il ne faut jamais oublier la population qui est exclue de la dématérialisation des services administratifs.
Philippe Grasset de FO Finances Publiques avec Carole Ferry, grève annoncée pour le 16 septembre. Et puis un autre ministre qui lui était l'invité d'Europe 1 ce matin, c'est Didier Guillaume. Le ministre de l'Agriculture est revenu sur la querelle autour de cette distance minimum entre les habitations et les champs où l'on pouvait mettre des pesticides. Il tient à rappeler que l'agriculture nourrit la France.
s'il devait y avoir des zones de non-traitement de 150 mètres autour de toutes les habitations, alors ça serait la plus grosse artificialisation des terres jamais obtenue. 150 mètres, c'est un terrain de foot et demi.
Terrain de foot et demi, donc pour vous, 150 mètres, ce serait de la folie pour nos agriculteurs.
Mais ce n'est pas de la folie pour nos agriculteurs, ce serait de la folie pour les consommateurs, parce que les agriculteurs ne seraient plus à même de fournir notre autonomie alimentaire, et nous serions obligés d'acheter de l'alimentation venant d'ailleurs.
Mais quel est l'arbitrage ?
Mais lorsque, aujourd'hui, la décision qui a été prise, elle est très claire. C'est charte de riverains. Les élus, les agriculteurs, la population, les associations se mettent autour de la table dans tous les départements. S'ils tombent d'accord sur les zones de non-traitement, eh ben, c'est la charte qui s'appliquera. S'ils ne tombent pas d'accord, ce sera imposé par le national et par l'État. Seul l'État peut le faire.
Didier Guillaume avec Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Il est midi 18, la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Direction Londres, au lendemain d'une nouvelle session houleuse à Westminster. Bis repetita aujourd'hui, Pierre, pour Boris Johnson qui va se retrouver face à la grogne des frondeurs.
Oui, Pierre Herbulot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Très sérieusement, Pierre, on n'y comprend plus rien. Expliquez-nous ce qui va se passer maintenant.
Alors, si vous le permettez, Pierre, pour bien comprendre, on va d'abord faire un petit résumé des épisodes précédents en trois étapes. Petit 1. Au mois de juillet, Boris Johnson succède à Theresa May en tant que Premier ministre. Il promet que le Brexit sera effectif le 31 octobre, même sans accord trouvé avec l'Union européenne. Petit 2. La semaine dernière, il annonce une suspension du Parlement pour 5 semaines, juste avant la date du Brexit. L'opposition se dit muselée et crie au coup d'État. Petit 3, et c'est la riposte d'hier, en utilisant un article du règlement intérieur du palais de Westminster et grâce au soutien de députés frondeurs, l'opposition a réussi à reprendre le contrôle des discussions du Parlement. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir sur quoi légiférer. Je vous le donne en mille, le Brexit. Les députés d'opposition, renforcés par les frondeurs, vont donc écrire et voter une loi cet après-midi pour contraindre Boris Johnson à repousser le Brexit d'au moins 3 mois et surtout rendre impossible ce qui fait peur à tout le monde ici, une sortie sans accord de l'Union européenne. Comme c'est trop simple pour l'instant, Pierre, il faut ajouter à ça une motion déposée par le Premier ministre. Dans la soirée, les députés devront également voter pour ou contre la dissolution du Parlement et donc l'organisation de nouvelles élections.
Impossible n'est pas anglais. Merci Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. D'ailleurs, la Commission européenne est assez lucide. Elle dit que le risque d'une sortie sans accord a augmenté. Et puis une dernière minute, parce que ça c'est très important, ça se passe à Hong Kong. C'est la chef de l'exécutif qui annonce que le fameux projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine allait être définitivement retiré. C'est donc une concession majeure à tous les manifestants pro-démocratie.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 20.
Europe 1. À suivre, mon fils en quart de finale de l'US Open, Federer éliminé et bien sûr le cinéma, puisque c'est mercredi. À tout de suite sur Europe 1.
Excellent après-midi sur Europe 1, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et on commence par le sport, puisque le sport aujourd'hui c'est le tennis. Il s'en est passé, dites-moi des choses, à l'US Open.
Oui, et il va s'en passer encore avec une première affiche de demi-finale inattendue. La nuit prochaine, on connaîtra l'affiche de la seconde. Et on espère beaucoup de Gaël Monfils, Corinne Boulou.
Oui, le numéro 1 français a l'opportunité en effet de se hisser comme en 2016 dans le dernier carré de Flushing. Il lui faut d'abord franchir l'obstacle italien qui se dresse sur sa route ce soir. Alors, Gaël Monfils très en forme, épargné surtout par les blessures qui ont émaillé sa saison, par favori face au jeune Matteo Berrettini, 23 ans et 25e mondial, un joueur solide et très puissant dont il se méfie. Mais Gaël Monfils est comme chez lui à New York. Il fait le spectacle sur le court, sous les yeux d'un public américain toujours très friand de gestes spectaculaires. Et puis, ce n'est pas anodin, sa compagne, l'Ukrainienne Elina Svitolina, s'est offert hier soir une deuxième demi-finale en Grand Chelem cette saison. Alors, c'est une voie à suivre pour rester en famille.
Bon, dites-moi, quand on dit qu'il y a eu des rebondissements, Corinne, c'est que Roger Federer a été éliminé dès les quarts de finale. Faut dire que, bon, il a des kilomètres au compteur, quand même.
Oui, enfin, le Suisse reste numéro 3 mondial, hein, ne l'oublions pas. Mais c'est vrai que son physique l'a lâché cette nuit face au Bulgare Dimitrov, 78e mondial, mais encore 3e mondial il y a 2 ans. Roger Federer, qui s'est incliné en 5-7, a reconnu qu'il avait dû composer avec une douleur persistante à la nuque. À désormais 38 ans, les matchs en 5-7 pèsent forcément un peu plus lourd. Et donc, avec une première demi-finale entre Dimitrov et le russe Medvedev, tombeur de Wawrinka, il y aura forcément un finaliste inédit à l'US Open.
Merci Corinne Boulou, la tennisman, tenniswoman d'ailleurs, de Europe.
Allez, c'est mercredi. Comme tous les mercredis, les sorties ciné, monsieur Mathieu Charrier, bonjour.
Bonjour à tous.
Deux films français à l'affiche, oui. D'abord Fourmi de Julien Rapneau avec François Damiens.
Oui, Fourmi en fait c'est le surnom donné au jeune Théo en raison de sa petite taille, sauf que Théo il a un rêve dans la vie, devenir footballeur professionnel, ou plutôt son papa rêve qu'il devienne footballeur professionnel, vous savez c'est souvent comme ça, ce père il est donc joué par François Damiens, séparé de sa femme, sans emploi, un peu paumé, porté sur la bouteille, vous voyez le profil. Alors le jour où un recruteur d'Arsenal vient dans le club local, il ne rêve que d'une chose, qu'il sélectionne son fils. « Hourra, c'est gagné !» lui annonce le jeune Théo. « J'ai été sélectionné !» Sauf qu'en fait, il n'a pas du tout été recruté en raison justement de sa petite taille. Mais il va faire croire le contraire à son papa pour essayer un petit peu de lui redonner foi à l'avenir. C'est Malôme Paquin qui joue Fourmi. On l'avait découvert dans Rémi sans famille. C'est un petit film, hein, mais qui vous donne le sourire. Ça n'a pas plus de prétention. Mention spéciale aussi à André Dussolier qui joue le président du club de foot local dans lequel évolue Fourmi. Et franchement, il est génial. C'est aussi un film, vous voyez, sur le lien que créent ces petits clubs de foot dans les villes et les villages. Voilà, ça sort demain. Ça sort aujourd'hui d'ailleurs plutôt. Allez-y, notamment en famille.
Et puis, fête de famille,
oui, justement.
Pour ne pas faire de jeu de mots, avec Catherine Deneuve.
Qui est mère de famille et même grand-mère, par la même occasion. Elle s'appelle Andrea, elle a décidé de réunir toute sa famille dans sa belle et grande maison familiale pour son anniversaire. Elle commence avec ces mots. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. » Évidemment, vous imaginez la suite. Mm-hmm. « Va alors débarquer sa fille aînée, c'est Claire, je veux par Emmanuel Berco, disparu depuis 3 ans. Il faut bien le dire, assez instable psychologiquement. Vous rajoutez le grand frère qui a pris la place du père disparu. Ça aussi, ça arrive souvent, il est joué par Cédric Kahn. Et puis le petit frère qui lui rêve de percer dans le cinéma, c'est Vincent McCain. Vous remuez tout ça. » Et évidemment, tout le monde va s'enguirlander. Moi, j'adore ces films de famille où tout le monde, tout le monde rêve ses contes. C'est un vaudeville.
Ça ne ressemble pas du tout à la réalité.
Oh, non, jamais. ça s'inscrit dans la lignée des autres, de Festen, un conte de Noël. Là aussi, allez-y, fête de famille. Là, je ne dirais pas forcément en famille, mais ouais. À vous de voir. 3 sur 5 pour les deux films,
si
monsieur.
Si c'est aussi trash que Festen, bonjour.
Oui, c'est ça.
Et puis, je vous signale quand même la disparition du photographe de mode Peter Lindberg. Ses clichés en noir et blanc ont fait bien sûr le tour du monde, le tour des mannequins. Il avait 74 ans. On y revient tout à l'heure à 13h.
Merci Pierre, à tout à l'heure.
Et les midi 20 26. Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr. La France bouge, Académie arrive avec des projets, des jeunes. Notre coach et notre investisseur vont-ils être convaincus ? Réponse dans 5 minutes.